Elisabeth Bercigel, vous êtes considérée comme une théologienne orthodoxe, mais en fait, vous êtes née dans le luthérianisme. Comment s'est effectué votre itinéraire ?
Effectivement, j'ai été baptisée dans l'église luthérienne, l'église de la confession d'Augsbourg, comme on dit, d'Alsace-Lorraine. Mon père était luthérien, mais je dois dire que ma mère n'était pas chrétienne. Et j'ai eu une enfance, en fait, sans une influence religieuse très forte. Si ce n'est pas familial, mais par l'école, oui. Par l'école. Et alors, dans le cours de mes études, faisant des études de théologie protestante, j'ai rencontré l'orthodoxie sous forme de quelques jeunes russes orthodoxes qui étaient mes camarades de cours. Ils étaient boursiers de la faculté de théologie protestante de Strasbourg. Il faut dire que tout de même c'était un événement. À cette époque-là, il y avait très peu de femmes qui faisaient de la théologie.
Des études de théologie.
J'étais la première génération de filles qu'on a admises à faire des études de théologie.
Mais en faisant ces études de théologie, qu'est-ce que vous souhaitiez faire de ces études ?
Il avait tout de même justement été accepté par l'église luthérienne d'Alsace-Lorraine, cette église de la confession de Augsbourg, que les jeunes filles qui feraient des études, elles trouveraient un travail à faire. Il n'était pas encore exactement dit qu'elles pouvaient être ordonnées comme pasteur, mais on nous assurait que nous aurions un ministère. Et personnellement, j'avais fait auparavant des études de philosophie, que j'avais beaucoup aimé intellectuellement, mais je désirais servir Dieu, je désirais servir l'Église, et on nous a promis que, sous une forme qui n'était pas exactement définie, nous pourrions avoir un ministère.
Alors c'est de cette façon-là que vous comptiez gagner votre vie, parce que normalement la théologie ça ne permet quand même pas.
Je veux dire que j'y réfléchissais pas tellement
à ce moment-là,
parce que j'étais très idéaliste, nous étions tous très idéalistes. Enfin, je pensais qu'en tout cas que je pouvais donner ma vie à Dieu, à l'Église, au service de l'église luthérienne ou de l'église réformée. C'est vrai, il y a en Alsace deux églises, l'une protestante, l'une réformée, l'église luthérienne. Et en fait, à cette époque, très souvent, on passait assez facilement de l'une à l'autre. Et en fait, j'ai d'ailleurs pu, à la fin de mes études, exercer un ministère. Je n'ai pas été consacré pasteur, mais j'ai eu la charge d'une paroisse dans les montagnes, ce qui était assez aventureux aussi.
Nous sommes à ce moment-là dans les années 1920-1930.
Ah non, quand même un peu plus tard. C'était en 1930.
30.
Voilà, 1930.
Et votre milieu acceptait que vous que vous vous engagiez dans un ministère pastoral.
Oui, enfin, c'était tout de même un problème. C'était un peu aventureux. Ma mère était plutôt opposée. Elle craignait pour sa fille. Mon père, je crois, était très heureux. Il m'a dit plus tard qu'il était très, très heureux que je fasse des études de théologie. Il faut dire que dans ma famille paternelle, il y avait d'autres, il y avait des pasteurs. Et en fait, je reprenais un peu le flambeau.
Mais quand vous passez à l'orthodoxie, est-ce que vous devez dire adieu à ce projet de...
Ah oui, absolument, bien sûr. En fait, j'ai fait. Alors, ça a été évidemment paradoxal parce que c'est au cours de mes études que j'ai cherché quelque chose. Et là, j'ai reçu beaucoup dans le protestantisme, ce qui fait qu'encore actuellement, j'ai d'excellentes relations avec mes amis protestants. Je reçus dans le protestantisme, d'une part, l'écriture sainte qu'on m'a mis entre les mains comme très jeune enfant. C'était vraiment autour de cela que s'organisait ma vie d'adolescente. Et d'autre part, cet appel à une conversion personnelle que j'ai reçu au sein d'un mouvement de jeunesse protestant. Mais par ailleurs, j'ai trouvé que la théologie protestante, surtout de cette époque-là, c'était avant Barthes. En fait, Barthes est à ce moment-là encore très peu connu dans les facultés de théologie protestante. Ça commençait à venir, c'était à l'horizon. Et cette théologie me paraissait absolument inconsistante. J'avais l'impression qu'il y avait un hiatus entre cette théologie telle qu'on nous enseignait et, par exemple, la théologie de Saint Paul. Ça m'a beaucoup frappé. Je me suis plongé dans l'étude de Saint Paul. Je trouve qu'il y avait un hiatus entre ce qui était enseigné dans les églises historiques dans ces années 1930 et cette profonde théologie paulinienne que je connaissais d'ailleurs à travers un grand théologien qui est en même temps un homme qui a eu un rayonnement social, Albert Schweitzer. Vous avez peut-être entendu parler de lui.
Oui, oui,
Albert
sûrement.
Schweitzer, quand même, c'était quelqu'un, un grand homme. Or, il était en fait un Strasbourgeois. J'ai lu son livre qui était La mystique de l'apôtre Paul. Or, cette mystique de l'apôtre Paul, qu'il décortiquait du point de vue historique, eh bien, elle n'était nullement la théologie de cette église paroissiale, qui était au fait une théologie très piétiste, très libérale. Au fond, il en restait uniquement une morale, presque.
Mais cette théologie de l'apôtre Paul ne vous rebutait pas en tant que femme, parce que Saint Paul a la réputation d'être misogyne.
Oui, ben, je ne faisais pas tellement attention à cela. Au fond, non, c'était quand même pas l'essentiel. L'essentiel, c'était cette mystique de l'union au Christ. Et finalement, j'ai rencontré, donc, j'avais des camarades orthodoxes, et il y avait des boursiers russes, de l'immigration russe, avec qui j'ai sympathisé, et qui m'ont amené à Paris. À ce moment-là, d'ailleurs, les relations entre protestants et orthodoxes en France étaient assez étroites, parce que les Russes émigrés ont bénéficié d'une aide très généreuse des églises protestantes. Donc, il y avait des relations, et c'est grâce à mes amis que je suis entré en relation avec les grands théologiens de l'immigration russe. J'ai eu la chance de connaître personnellement le père Serge Bulgakov et le philosophe Nicolas Berdiaev, qui s'intéressait à cette jeune protestante qui, elle, était passionnée. C'était évidemment, c'était toute une rencontre avec l'immigration russe, en ce qu'elle avait de génial, de riche, de prophétique. C'était des gens, ils étaient pas du tout sclérosés. En fait, ils apportaient en France comme un écho de ce grand renouveau religieux qui a eu lieu en Russie dans les années 1900, entre le début du 20e siècle et la Révolution. Donc les premières 15 années du 20e siècle, il y a eu tout un renouveau religieux en Russie. Il y a eu un retour d'une partie de l'intelligentsia russe vers l'Église. Des hommes comme le père Bulgakov était un ancien révolutionnaire, n'est-ce pas ? C'est un socialiste marxiste qui, fils de prêtre, passé au marxisme, a retrouvé l'Église. Du même Berdiaev. Et ce sont des gens avec lesquels je pouvais profondément sympathiser, parce que moi-même, j'étais très préoccupée de problèmes politiques, sociaux. J'étais très liée avec Emmanuel Mounier, comme une jeune fille de 20 ans peut être liée avec Emmanuel Mounier, qui lui-même était encore très jeune à cette époque-là. Et quelqu'un comme Berdiaev, par exemple, était très profondément lui-même sympathisé avec la revue Esprit.
Mais est-ce que ça n'a pas été une grande souffrance pour vous de quitter la confession de Wurtzbourg, de quitter le...
Eh bien, ça a été une souffrance pour moi, surtout de faire de la peine à mon père. Et j'avais perdu déjà ma mère, mais c'était une souffrance pour moi de peiner mon père, et aussi de peiner un certain nombre de mes professeurs et de mes amis, en particulier le pasteur Bugner, Marc Bugner. Je connaissais bien, qui avait, je crois, mis quelques espoirs en moi. J'avais été une étudiante plutôt brillante. Et alors, ça m'a fait beaucoup de peine. Mais je crois que ça a été facilité justement du fait qu'à cette époque, il y avait des relations très fraternelles entre l'Église orthodoxe, en tout cas sous sa forme russe, et les protestants. Il faut penser que c'était tout à fait le début du mouvement œcuménique, qui n'avait pas encore touché l'Église catholique, mais qui avait touché déjà les églises protestantes et les églises orthodoxes. De sorte que quand je suis entrée dans l'orthodoxie, j'ai eu ce sentiment, en fait, de me regreffer sur l'Église indivise, et que en me regreffant personnellement dans l'Église, sur l'Église indivise, eh bien, en fait, je favorisais cette unité des églises à laquelle nous aspirions.
Mais j'ose vous poser une question. Pourquoi l'orthodoxie et pas le catholicisme, qui est quand même présent fortement
en
Alsace ?
C'est ça. Et je peux dire, je n'ignorais pas du tout le catholicisme. Au contraire, je me suis sentie attirée par lui, à un moment donné, par le mouvement liturgique. Et j'ai eu des amis qui, à la même époque, étant protestantes, sont devenus catholiques. Il y a eu à ce moment tout un mouvement autour de Jacques Maritain. Mais par ailleurs, il y avait une espèce de raideur dans l'Église catholique qui, à ce moment-là, n'était absolument pas œcuménique. Je pouvais très bien entrer dans l'orthodoxie en disant que je gardais tout ce que j'avais reçu. Je n'avais pas besoin de renier ce que j'avais reçu dans le protestantisme, ce n'aurait pas été le cas si j'étais devenue catholique. Je me souviens de la souffrance de tel de mes amis qui est devenue catholique et qui a dû renoncer à la Bible protestante qu'elle avait reçue au moment de sa confirmation, puisqu'on n'admettait même pas qu'on lise l'Écriture sainte dans des traductions qui étaient des traductions protestantes. Alors que là, j'ai trouvé dans l'orthodoxie un catholicisme au sens profond du mot, catholon, n'est-ce pas, selon la plénitude, mais qui est en même temps évangélique. Et qui avait une très grande charité. On m'a rien demandé de renier. Je n'ai pas eu à abjurer quoi que ce soit. On m'a reçu, simplement, voilà, j'étais là. Je suis allée d'une richesse vers une richesse plus grande, d'une lumière vers une lumière plus grande.
Mais vous avez dû renoncer à votre projet pastoral.
J'ai dû oui.
Ça a été dur ?
C'était dur, mais il faut dire que je me suis mariée à cette époque-là. Et j'ai... Justement, des gens comme le père Serge Bulgakov et Paul Evdokimov, que j'ai connu à la même époque, qui était beaucoup plus proche de moi, qui était un peu plus âgé, qui était comme un frère aîné, mettait un très grand accent sur le sacerdoce royal des laïcs. Et sur ce fait que servir l'Église en tant que laïc était un service. En fait, il y avait des ministères différents, que veut dire ministère, ministère, service, et qu'au fond, en tant que laïc, on pouvait servir Dieu et l'Église. Et là, il y avait en fait un projet assez enthousiasmant que nous avons réalisé plus ou moins. On ne réalise jamais tout ce qu'on rêve. Nous avions cette idée que faire revenir l'orthodoxie en Occident, il y avait là un projet exaltant, que nous avions là une Église à bâtir. Et bâtir cette Église nullement contre les autres Églises, non pas dans un esprit d'opposition ni au protestantisme, ni à l'Église catholique, mais en témoignant pour la plénitude que nous avions reçue là, mais que c'était une grande chose, et je veux dire que je ne regrette pas du tout. J'ai participé à cette... qui est d'ailleurs quelque chose de très difficile, parce que la grande masse des émigrés russes, où on pensait simplement au retour dans la patrie, ça n'intéressait pas du tout à ces petits groupes d'orthodoxes qui étaient francophones, qui étaient d'ailleurs certains d'origine russe, comme mon mari. Je me suis mariée avec un russe, mais un russe francophone, qui avait reçu d'ailleurs son éducation dans un collège catholique, mais qui était resté très orthodoxe, et qui, avec moi et avec d'autres amis, nous avons pensé qu'il y avait une grande chose à faire, c'est à construire cette rencontre qui n'avait pas eu lieu depuis 1000 ans entre l'Occident chrétien et l'Orient par quelque chose qui était encore une nébuleuse mais qui pouvait être une Église fécondée à la fois par l'Orient et par l'Occident.
Ce projet était un projet religieux mais était-il également un projet culturel ?
C'est aussi un projet culturel, certainement, mais essentiellement religieux, mais enfin culturel. Disons que donner de l'orthodoxie une expression occidentale, mais qui n'était pas du tout dirigée, qui était tout, mais pour moi c'était toujours très lié à cette idée de finalement œuvrer pour l'unité chrétienne, l'unité des chrétiens. Mais être ici, témoigner du fait que l'orthodoxie, où je vois, est la plénitude qui est enracinée dans l'Église indivise, elle pouvait avoir une expression occidentale.
Et vous avez beaucoup milité dans les mouvements œcuméniques.
Enfin, disons que militer, je n'aime pas tellement cette expression, mais mon mari et moi, nous avons vécu assez longtemps en province, en France. Nous avons fondé un premier groupe œcuménique en 1943. Ce n'était pas du tout encore la mode. À ce moment-là, c'était vraiment tout à fait des balbutiements et de ce genre de... Et nous avons eu donc des... C'était relativement facile, avec les protestants. Le pasteur qui était à ce moment dans la ville de province où nous habitions était un de mes camarades d'études, donc c'était relativement facile. C'est beaucoup plus difficile avec les catholiques, mais néanmoins nous avons réussi à avoir une présence catholique et ce sont encore restés maintenant mes meilleurs amis. Ça a été à la fois, c'était quelque chose, parce qu'il faut penser, c'était en 43, nous étions en pleine guerre, en occupation allemande, nous militions tous dans la résistance, plus ou moins. Alors là, il y avait une fraternité formidable entre nous, nous luttions contre ce fascisme inhumain, contre la persécution des juifs, nous hébergions des juifs, et nous étions en même temps unis par notre foi chrétienne. Alors je pense que ce sont finalement, je dirais, les meilleures années de ma vie, les plus riches, avec une très grande pauvreté, parce que nous n'avions rien à manger, la Gestapo est à nos portes, deux de mes amis ont été déportés, l'un n'est pas revenu, je dirais trois. J'étais très liée avec la mère Marie Skatsov, je ne sais pas si une religieuse orthodoxe, qui est morte à Ravensbrück. Et j'ai peut-être contribué à son arrestation parce que je lui ai téléphoné. Enfin, voilà.
Vous avez écrit récemment un ouvrage intitulé « Le ministère de la femme dans l'Église ». Est-ce que vous vous êtes sentie concernée comme femme par toute la montée du mouvement féministe ?
Oui, enfin, je n'ai pas cherché tellement. Parce que, bon, nous avions tellement de choses à faire que c'est très bien. Enfin, je trouve bien sûr dans la pratique juste des agacements, parce que les hommes aiment tellement parler, n'aiment pas tellement donner la parole aux femmes. Bon, enfin, j'ai un peu bataillé dans ce domaine-là. Enfin, je ne dis pas ce qu'on appelle une féministe militante. Mais il est arrivé d'une façon tout à fait imprévue que j'ai reçu en 1976 l'invitation à participer à la... je ne sais comment ça s'appelait, oui, le colloque, le congrès d'Agapia en Roumanie. C'était une rencontre internationale de femmes orthodoxes organisée par le Conseil œcuménique des Églises et par les Églises orthodoxes. Je ne sais plus comment on est tombé sur mon nom, enfin, je ne sais pas, bref. À mon plus grand étonnement, j'ai été invitée là et on m'a demandé de faire la conférence principale. Alors j'ai considéré ça, c'était un peu un signe de Dieu. Je n'avais pas tellement cherché à entrer là-dedans. Mais du moment que Dieu m'appelait, eh bien, il fallait y aller. Alors moi, j'étais tout à fait étonnée, mais bon. Et c'était une rencontre importante, en ce sens que pour la première fois, je crois, dans l'histoire, des femmes orthodoxes se sont rencontrées, venues d'ailleurs de pays très très divers. Il y avait des délégués de l'Union soviétique, de Roumanie, du patriarcat d'Antioche, de Grèce, mais aussi d'Amérique, d'Angleterre, de France, de Suisse, etc. Et nous sommes trouvées à la fois très unes, spirituellement, très différentes, culturellement, et tout de même toutes très concernées par le fait que les femmes sont actives dans l'Église, plus ou moins, de façon différente, selon les pays, mais qu'il y avait une certaine invisibilité des femmes dans le culte, par exemple, de l'Église. Et en fait, nous sommes fortifiées les unes les autres dans cette idée qu'il fallait essayer de faire quelque chose, d'ailleurs avec l'accord d'un certain nombre d'évêques, dont l'actuel patriarche d'Antioche.
Mais on dit que quand même, plusieurs personnes en tout cas prétendent que le discours de l'Église, le discours de la Bible, est un discours anti-féministe, n'est-ce pas ? Dans la Bible, la femme est considérée comme pécheresse, perverse, puisque c'est pareil.
C'est une certaine lecture de la Bible.
Oui.
Mais c'est une certaine lecture. C'est-à-dire qu'on, par exemple, on prend toujours le deuxième récit de la création et on ne prend pas le premier, n'est-ce pas ? Le premier récit de la création, hommes et femmes sont créés à l'image de Dieu. Dieu créa l'homme à son image, homme et femme, il les créa. C'est vrai, il y a ce balancement entre le, qui est d'ailleurs l'homme, humanité, et puis les deux qui sont tous les deux représentants de cette humanité, tous les deux également à l'image de Dieu. Et je dirais d'ailleurs que ceci, la lecture si pessimiste en ce qui concerne la femme, était tout de même beaucoup moins chez les pères de l'Église d'Orient. Ils n'ont pas, ils ont dit des choses souvent désagréables à propos des femmes, Saint Jean Chrysostome leur reproche d'être frivoles, bavardes, etc. Mais néanmoins, les grands pères de l'Église, enfin ceux qui sont vraiment les Cappadociens, Saint Jean Chrysostome, Saint Basile, Saint Grégoire de Nazianze, eh bien, ils n'ont pas rationalisé l'infériorité de la femme, comme cela a été le cas dans la scolastique occidentale, dans sa dépendance de Saint Augustin. Alors là, justement, j'ai appris toutes ces choses que j'ignorais totalement, étant donné ma formation, qui avait été d'une part protestante, d'autre part orthodoxe. J'ai lu avec horreur, n'est-ce pas, que la femme était une espèce de mâle raté, et qu'elle avait des raisons en quelque chose physiologiques de ne pas être l'égale de l'homme, qu'elle était dans un status subjectionnus, c'est un état de
suggestion.
Et ceci, en fait, c'est comme beaucoup moins... Enfin, en tout cas, on ne trouve rien de ce genre chez les grands-pères de l'Église, qui n'ont jamais, je crois, dans l'Église orthodoxe, on n'a jamais douté, on n'a jamais enseigné que la femme ne soit pas à l'image de Dieu. Alors évidemment, on trouve chez les pères de l'Église beaucoup que Ève est responsable du péché, qu'elle a introduit le péché, oui, là-dessus, etc. Mais on a tout de même toujours dit que, finalement, que pour les deux, une même mort, et une même résurrection, comme le dit Grégoire de Nazianze.
Oui, mais dans la Bible, enfin dans l'Ancien Testament tout au moins, la femme à certains moments de son existence est considérée comme impure, n'est-ce pas ?
Oui.
C'est quand même une idée un peu...
Oui, il faudrait parler de ça, c'est d'ailleurs une des choses qui préoccupe actuellement les femmes orthodoxes, puisqu'il reste toujours un peu de cela. Alors, Qu'est-ce que représente cette impureté rituelle? Je crois, d'ailleurs, je ne sais pas, je cherche à savoir, je crois que ça n'a pas toujours absolument le sens d'impureté. C'est quelque chose, enfin, disons que le sang est quelque chose, un élément qui ne doit pas entrer en contact avec le sacré. Enfin, il y a, évidemment, là, les idées qui ne sont même pas bibliques, seulement qui viennent de l'âge néolithique. Bon, effectivement, ça se trouve dans la Bible, il y a des paroles désagréables de saint Paul, mais en fait, il faut voir saint Paul qu'en même temps, nomme je ne sais combien de femmes comme ses collaboratrices. Je ne sais combien de fois dans les lettres, si vous divisez des épîtres saint Paul, je ne sais pas exactement, mais il y a au moins une douzaine de femmes qui sont parmi ses proches collaboratrices. Et quand il emploie le terme collaborateur, le terme en grec, je veux dire, c'est exactement le même terme qu'il emploie pour Apollos ou pour Timothée. Elles sont ses collaboratrices au même titre.
Mais Paul est misogyne, il va jusqu'à dire...
Oui, non, il n'était pas misogyne. Et il a des tas de... Parmi ses collaboratrices, il y a des tas de femmes.
Mais que les femmes se taisent dans les...
Oui, mais que les femmes. Alors, voilà, justement, alors on l'a appliqué, on dit qu'elles ne doivent absolument pas parler. En fait, est-ce que ça ne veut pas dire qu'elles ne doivent pas bavarder? C'est d'ailleurs comme ça que saint Jean Chrysostome l'a interprété. Pourtant, c'est une autorité dans l'Église. Ça voulait dire qu'elles ne se mettent pas à une Église de pousser leur mari et de lui dire « Bon, explique-moi ça, je n'ai pas très bien compris. » Mais ça ne voulait pas dire qu'elles ne devaient absolument pas parler. Il faut dire, écoutez, je crois que très souvent, on projette sur certains textes, même du Nouveau Testament paulinien, des idées qui ont surtout été des idées médiévales. Mais il est évident que aussi bien saint Paul que les pères de l'Église vivaient dans un milieu où la femme, dans l'ensemble, était considérée comme inférieure à l'homme. C'est une chose aussi vraie que le soleil tourne autour de la terre, n'est-ce pas ? Alors, évidemment, ça faisait partie, vous savez, de ces lieux communs que la femme était intérieure. Mais dans la pratique, très souvent, autour de saint Jérôme, ça veut très bien, il y avait plusieurs femmes qui l'ont aidé à dans sa traduction. Et autour de... Quand saint Jean Chrysostome est parti en exil, à qui a-t-il écrit, à qui s'est-il confié? À la diaconesse Olympias. Alors, il y a eu tout ce phénomène, d'ailleurs, des diaconesses, c'est pas, qui ont tout de même existé dans l'Église d'Orient, en fait, à Byzance, jusqu'au Xe, XIe siècle.
Oui. Mais pourquoi le salut de l'humanité, en tout cas, c'est ce que prétend l'Église, pourquoi le salut de l'humanité passerait-il par un mâle, par Jésus, et non pas par une femme?
Ben bon, c'est un fait historique,
enfin, c'est
soit l'un ou l'autre. Bon, eh bien, mais seulement, dans la doctrine théologique de l'Église, le Christ a assumé toute l'humanité. Bien sûr, il était biologiquement, il était un homme.
Bon, il était d'un sexe.
Il avait un sexe. Je pense d'ailleurs, justement, il y a ceci, que le christianisme, la religion chrétienne, est une religion qui a une base historique. À la différence, par exemple, de l'hindouisme, etc., qui est... De ce que là, il y a une base historique. Donc, historiquement, si Dieu voulait entrer dans l'histoire, il devait entrer à un certain moment de l'histoire. À ce certain moment de l'histoire, c'est en fait quelque chose d'assez monstrueux. Comment est-ce que Dieu, ce Dieu infini, éternel, a-t-il pu entrer dans l'histoire? Et c'est en même temps toute la grandeur de l'Église de penser que Dieu est présent dans l'histoire. Dans notre pauvre histoire humaine, Dieu est présent.
Que Dieu accepte les limites de l'homme.
Alors, dans la mesure où il est entré dans l'histoire, il fallait, comme vous dites, qu'il ait accepté les limites de l'homme, donc il fallait qu'il soit d'un sexe, il pouvait être homme ou femme. Historiquement, il est certain que le Christ n'aurait pas pu faire une œuvre de prédicateur comme il l'a fait durant sa vie historique s'il avait été une femme. Donc ça peut s'expliquer, mais enfin, il ne faut pas trop radoter là-dessus. Et je dirais, dans la mesure où l'Église orthodoxe est une Église finalement théologique, où la théologie joue un très grand rôle, même dans la vie personnelle du croyant, eh bien nous avons toujours, je crois qu'on n'a jamais douté du fait que le Christ a assumé toute l'humanité. Comme les pères de l'Église ont dit, ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. Donc le Christ a dû assumer aussi la féminité. Il ne pouvait pas ne pas assumer, il a assumé. D'ailleurs, finalement, ça rejoint ce que la science dit. Actuellement, la science montre qu'aucun être humain n'est purement masculin ou purement féminin. Nous sommes tous plus ou moins un peu androgynes, c'est-à-dire en chacun de nous, il y a des hormones à la fois féminines et masculines. Mais enfin, ceci, finalement, n'est pas théologique. Le fait est, théologiquement, que le Christ a assumé toute l'humanité.
Mais le problème du ministère de la femme dans l'Église actuellement est posé souvent de la façon suivante. Est-ce que les femmes pourront devenir prêtres? Est-ce que c'est la bonne façon d'abord de poser le problème?
Et je crois qu'il peut entrer là-dedans quelque chose comme une espèce de forme de cléricalisme. Cette idée que l'Église est une espèce de hiérarchie, alors il y a tout en haut, bon, il y a le pape pour l'Église catholique, et puis alors en bas, enfin, plus ou moins, descend plus ou moins, enfin à une bonne distance encore, il y a le prêtre qui est un peu au-dessus des autres. Et alors on dit, voilà, nous voulons avoir l'égalité, donc nous voulons aussi avoir le droit d'accéder à ce degré de la hiérarchie. Mais je crois que c'est une façon mauvaise de poser le problème, parce que je pense que toute place dans l'Église est en fait un ministère, un service. Alors il y a dans l'Église des services différents qui ne sont pas du tout absolument hiérarchisés. Il y a un éventail de services différents dans l'Église. Mais je pense que ce qui est grave, c'est de dire que la femme est exclue d'une certaine forme de service. Il me semble que c'est limiter la liberté de l'Esprit Saint. Parce que finalement, ce n'est pas l'Église qui appelle, c'est l'Esprit Saint, c'est Dieu qui appelle. Et précisément, les orthodoxes mettent l'accent sur cette présence de l'Esprit Saint. C'est l'Église et c'est l'Esprit qui dirige l'Église. Alors évidemment, il y a tout de même une hiérarchie, une autorité. L'Église a un certain ordre, et c'est à la hiérarchie de l'Église, disons, à l'évêque, aux évêques, de vérifier une vocation. Il peut y avoir des vocations farfelues, il peut y avoir des gens qui se trompent. Chacun de nous peut se tromper. Je pense qu'il y a une espèce de vérification par l'Église des vocations qui est tout à fait juste, à mon avis. Mais exclure, dire qu'on ne veut même pas examiner la vocation d'une femme, simplement parce qu'elle est femme, ceci me paraît contraire à cette liberté, à la liberté de l'Esprit.
Mais est-ce qu'on doit exclure les femmes du sacerdoce, selon vous ?
Mais je crois qu'on ne devrait pas. Maintenant, il y a la lourdeur de l'histoire. Je crois que, d'abord, je ne me sens pas diminuée, précisément, du fait que je ne peux pas accéder au sacerdoce. Je dis, je ne suis pas d'accord. Je pense que l'Église, toutes les églises, y compris l'Église orthodoxe, doivent réfléchir à ce problème. Mais d'autre part, il y a tout de même une lourdeur de l'histoire. Il y a maintenant 2000 ans, enfin, on peut discuter, il y a probablement eu des femmes qui ont eu des ministères. Mais disons qu'en tout cas depuis un certain nombre de siècles, 1000 ans à peu près, il n'y a jamais eu de femmes prêtres évêques. Alors on ne peut pas renverser ces choses. D'autant plus, enfin, je crois qu'il faut ne pas scandaliser. Je pense toujours à saint Paul, qui appelle à la liberté chrétienne, mais tout ce qui est permis, tout n'est pas utile. Alors je pense qu'actuellement, en tout cas dans certaines régions de l'Église, je parle des régions de l'Église, mais ce ne serait pas utile. Quand je pense à une Église comme l'Église russe qui vient de traverser une épreuve tellement terrible, qui peut-être en sort. Je viens de lire des textes de témoins russes. Alors maintenant, jeter ce problème là-dedans, alors qu'il y a tant d'autres problèmes plus graves à résoudre, je crois que ce serait vraiment, ce serait pas utile. Voilà. Mais en même temps, je pense que nous devons nous bénéficier. Je crois que nous avons un rôle à jouer, nous, chrétiens en Occident, qui en fait sommes dans une situation à certains points du privilégié. Nous sommes libres. Je crois que nous devons réfléchir à ce problème. Et j'ai encore eu la chance de rencontrer des représentants de l'Église russe, de l'Église russe en Russie, du patriarcat de Moscou. Il y a eu un colloque à Nanterre au mois de janvier où il y avait plusieurs représentants des grandes écoles théologiques, de l'Académie de Moscou, de l'Académie de Leningrad, à qui j'ai parlé, qui m'ont dit « Mais envoyez-moi votre livre, on a envie d'y réfléchir. » Alors je crois que ce n'est pas... Je crois que nous devons pouvoir en parler sereinement. Ne pas combattre comme porte-drapeau, il faut absolument que les femmes soient ordonnées. Je pense que la seule vocation importante, à la fois des hommes et des femmes, c'est la vocation à la sainteté, à laquelle nous manquons tous, ou presque tous. Et c'est au fond la seule chose importante. Et le reste, bon, a une certaine importance de la vie historique. Je crois que c'est le moment qui est venu. J'ai eu cette chance que Mgr Antoine Blum, qui est le représentant du patriarcat de Moscou en Europe occidentale, enfin du moins en Grande-Bretagne, a voulu préfacer mon livre. Je sais qu'il pense lui aussi que c'est une question importante. Et lui vit dans un pays où précisément c'est une question qui est à l'ordre du jour.
Elisabeth Bersigène, je vous remercie.
Bonjour, merci de m'avoir laissé parler.